Philippe Collin s'attaquera à Revenons à nos moutons. Bernard Stiegler est philosophe, il est aujourd'hui directeur du développement culturel au Centre Georges Pompidou. Philosophe de la technique, Bernard Stiegler est un philosophe du contemporain, d'ici et maintenant, qui observe nos sociétés hyper-industrielles et le désenchantement absolu qui y règne, en particulier chez ceux qui pensent ne plus rien avoir à attendre de leur développement. Ils deviennent alors des désespérés, et ces désespérados seront de plus en plus nombreux, prédit Bernard Stiegler. De son point de vue, les émeutes du mois de novembre 2005 en France sont des appels au secours, et refuser de les entendre comme une véritable tentation suicidaire revient à endosser une lourde responsabilité et préparer le passage à des violences beaucoup plus graves. Bernard Stiegler poursuit son travail avec les volumes 2 et 3 de Mécréance et discrédit, deux livres publiés chez Galilée. Dans le volume 2 de Mécréance et discrédit, sous-titré « Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés », Bernard Stiegler tente de penser ce qu'il en est de la place de la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse à propos de laquelle il parle de complexe d'Antigone. Juste après le mouvement anti-CPE, voilà donc un livre qui tombe à pic. Dans le volume 3, « L'esprit perdu du capitalisme », Bernard Stiegler revient sur le cercle vicieux et addictif « Souffrance, consommation, souffrance ». Cercle vicieux qui engendre Mécréance et discrédit. Il ne s'agit pas d'abattre le capitalisme, mais de constater qu'il est parvenu à un stade irrationnel et qu'il faut donc le sauver de lui-même. Et Bernard Stiegler d'affirmer qu'une nouvelle société industrielle doit être pensée. Pour ces deux nouveaux volumes de Mécréance et discrédit, publiés chez Galilée, Bernard Stiegler est l'unique invité de ce charivari qui débute avec Benabar, le dîner.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les bras. Commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les bras. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas. Qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les rats. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les rats. On commandera des pizzas, toi la télé.
Benabar, Le Dîner, Bernard Stiegler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous publiez ces deux nouveaux volumes, toujours chez Galilée, de Mécréance et Discrédit. Le premier s'intitule Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés. Le second, L'esprit perdu du capitalisme. Alors, vous êtes un habitué de cette émission, donc moi je suis habitué à lire vos livres. Et je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est votre ton d'inquiétude, d'angoisse que j'ai trouvé plus aigu que d'habitude. Vous écrivez par exemple comme jamais auparavant, je crains aujourd'hui le pire, stupéfait de l'apathie de mes contemporains autant que de leur furie. Alors on reviendra évidemment sur vos analyses, sur le constat. En même temps, on sort d'un vaste mouvement social qu'a été le mouvement anti-CPE. Les commentateurs souvent ont loué la maturité politique de ces jeunes gens, la qualité même des propos entendus dans les assemblées générales. Alors, qu'avez-vous pensé de ce mouvement? Est-ce qu'il vous a surpris? Comment vous le regardez?
Je dois dire qu'en effet, il m'a surpris agréablement, d'une certaine manière, par son calme, la clarté de son discours. Et en même temps, il a confirmé un sentiment que j'ai depuis quelques années, que je développe au fil de ses ouvrages récents, qui est que la jeunesse... Et dans un très très grand malaise, je dis la jeunesse, il faudrait dire les jeunesses, mais que la jeunesse, donc dans son ensemble, souffre d'une perte de raison de la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire d'une perte de motif, d'une irrationalité profonde de la société dans laquelle nous vivons. Et que on se trompe quand on dit qu'elle n'est pas prête à voir des changements importants se produire dans la société, mais on se trompe encore plus quand on veut lui imposer des discours sans lui proposer un discours d'avenir sur cette société, sur ce qui fait souffrir cette jeunesse. La jeunesse française, mais c'est vrai dans le monde entier, c'est sans doute plus vrai en France qu'ailleurs, souffre très gravement d'une perte de sa place dans la société. Chaque individu, dans son métier, dans sa génération, a une place, ou doit avoir une place dans la société, est affecté à une place. Cette affectation, elle est produite par tout un dispositif social, qui est l'éducation, qui est l'origine sociale, qui est l'endroit d'où on vient, si on est à Marseille, c'est pas comme si on est à Paris, etc. Par son origine ethnique aussi, ou nationale, religieuse, etc. Mais une société qui fonctionne bien, c'est une société qui produit de la motivation à partir de cette diversité et qui est capable de donner à voir un avenir à moyen et à long terme. Aujourd'hui, la jeunesse contemporaine est mise dans une situation de perte de vision d'un avenir et elle souffre d'un phénomène que j'appelle de désaffection. De désaffection et de désaffectation. De désaffectation au sens où elle a le sentiment de ne plus avoir de place dans notre société, ce qui est absolument incroyable, absurde, scandaleux, dans la mesure où une société n'existe que par la place qu'elle fait à sa jeunesse. Mais aussi de désaffection dans la mesure où ses affects sont de plus en plus détruits par l'organisation sociale qui ne repose maintenant plus que sur l'impératif de la consommation. Et la dernière fois que je suis venu dans cette émission, pendant le journal, vous m'aviez fait passer un article du journal Le Monde qui évoquait un procès, le terrifiant procès de monsieur et madame Cartier, Emmanuel et Patricia Cartier, qui étaient donc aux assises pour une tentative d'assassinat de leurs enfants, pour donc un infanticide, qui malheureusement a réussi pour une de leurs petites filles, qui a échoué pour les quatre autres enfants, et aussi qui a échoué dans la tentative de suicide que ses parents avaient faite à la suite de cette tentative d'assassinat. Pourquoi est-ce que ses parents ont commis cet acte? C'est toujours très difficile de savoir ce qui se passe dans un cas comme celui-là. Mais en tout état de cause, ce qui est certain, ce qui est connu, ce qui a été établi par l'instruction, c'était des gens qui étaient des hyperconsommateurs. Des gens qui ne vivaient plus que de la consommation. Et qui, plus ils consommaient, plus ils avaient le sentiment de ne pas exister et d'un vide de leur existence qu'ils tentaient de combler en consommant toujours plus. Alors, je me suis posé la question dans ce livre de savoir si monsieur et madame Cartier n'aimaient plus leurs enfants. Et moi, je conclus que non. Je pense que monsieur et madame Cartier aimaient leurs enfants, ou plutôt essayaient d'aimer leurs enfants, mais n'y arrivaient plus, parce qu'ils sont dans une société qui empêche d'aimer ses proches, ses amis, sa famille, son pays. Et il n'y a pas que les immigrés qui ont des problèmes d'amour vis-à-vis de leur pays aujourd'hui, dans notre pays qu'est la France. Et que, à un moment donné, ces personnes-là se sont trouvées prises à un tel point dans ce processus d'hyperconsommation qu'elles sont passées à un acte totalement désespéré. Au cours du procès, Emmanuel Cartier, le père des enfants Cartier, dont je souligne, c'est très important, que chaque enfant avait la télévision, sa télévision, et que chaque parent avait sa télévision, cette personne, cette téléviseur. Monsieur Cartier a dit, nous avons considéré que ce monde ne nous offrait plus aucun motif d'espoir, et nous avons pensé qu'il y avait une vie après la mort, et que dans cette vie après la mort, nous allions emmener nos enfants avec nous pour pouvoir vivre enfin une vie digne d'être vécue, si je puis dire. Ce procès est terrifiant. Il est évidemment un cas extrême. Mais ce cas extrême, pour moi, est un symptôme parmi d'autres de ce que j'appelle le désamour généralisé. Nous vivons dans une société qui est en train de ruiner les affects. Et elle ruine les affects pour des raisons très précises. D'abord parce que le marketing contemporain, que l'on appelle maintenant le marketing neuronal, et qui est scientifique, vise à canaliser, à capter de manière totalement hégémonique les affects des individus, et en premier lieu des enfants, et de la jeunesse, sur les objets de la consommation, sur les services de la nouvelle société de services dans laquelle nous vivons. Et cette captation des affects conduit lentement mais sûrement à la destruction des affects. Parce que la société de consommation, d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes, emploie des techniques qui conduisent à ce que j'appelle la saturation affective, qui conduisent à solliciter absolument en permanence les yeux, les oreilles, bientôt le toucher des individus, pour faire en sorte de mettre sous contrôle permanent leur sensibilité. Et pour pouvoir attirer, à travers ce contrôle de leur sensibilité, leur libido vers les objets de la consommation. Or, ce processus de captation de l'affect produit deux résultats extrêmement graves. Le premier de ces résultats consiste dans le fait que, à la télévision par exemple, on dit il faut, à la télévision ou dans le marketing, il faut viser à atteindre les enfants le plus jeune possible, et autant que possible avant 5 ans. Parce que un enfant de moins de 5 ans, c'est un enfant qui n'a pas encore achevé ce qu'on appelle son identification primaire. L'identification primaire, c'est ce que Freud a identifié comme étant le processus par lequel l'enfant, qui est très dépendant de ses parents, se voue à un amour parental sans limite, qui l'amène à intérioriser l'objet parental comme une autorité indestructible qui se transforme ensuite en ce qu'on appelle le surmoi. Cette captation de l'amour de l'enfant pour son parent qui va lui-même lui transmettre une certaine idée de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui convient et de ce qui ne convient pas, de la bienséance et de la malséance, etc. Cette captation, c'est elle qui va ensuite réguler, chez l'enfant en devenant adulte, ce que Freud appelle les identifications secondaires. C'est-à-dire le fait que, par exemple, à l'âge de 10 ans, je vais m'identifier à mon entraîneur de rugby, à 12 ans à mon prof de maths, à 15 ans à une fille dont je tombe amoureux, à 18 ans à mon prof de philo, à 20 ans au Parti communiste ou au Front national ou à Nicolas Sarkozy ou je ne sais quoi, etc., etc. Et Freud dit, le problème, c'est que ces identifications vont rentrer en conflit les unes avec les autres. Ce qui va réguler ce conflit, c'est l'identification primaire, qui est en quelque sorte le juge de paix de l'âme. À partir du moment où le marketing développe depuis déjà presque 30 ans une théorie qui consiste à dire il faut capter l'attention des individus le plus jeune possible et détourner le processus d'identification primaire des parents vers les objets des industries culturelles principalement, et à travers eux ou à travers elles, vers les objets de la consommation, on est en train de détruire le surmoi. À partir de là, on détruit toutes les possibilités de régulation sociale, parce qu'il n'y a pas de régulation sociale sans l'autorité d'un surmoi existant. On détruit le rapport à la loi, on produit de l'incivilité structurelle ou bien du désespoir. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout incivils, qui ne voudraient qu'une chose, c'est s'intégrer à la France, pas seulement les immigrés, les petits Français, les petits Blancs. Ils voudraient eux aussi s'intégrer, ils ne trouvent pas leur place. Alors ça peut se manifester par des émeutes, comme au mois de novembre, ça peut se manifester par des crimes comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est terrifiant et qui est accablant pour cette famille, d'abord. Ça peut se manifester par les attentats de Londres, du mois de juillet dernier. Ça peut se manifester aussi par des mouvements sociaux plus structurés, plus raisonnables, plus porteurs d'espoir, comme le mouvement du CPE. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que la sollicitation affective systématique, on a dépassé 4 heures de consommation de télévision par jour, actuellement, grâce à la TNT. En plus de ces 4 heures de consommation de télévision, on a maintenant les temps interstitiels avec les objets communicants et nomades, etc. On arrive à un phénomène que j'appelle de saturation affective, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle depuis des années la saturation cognitive, et qui fait que on a développé des technologies d'information pour augmenter les capacités de prise de décision de l'encadrement, des entreprises, des chercheurs, des gouvernants, etc. Et qu'en réalité, on a engendré une paralysie de la décision, parce que les gens n'ont pas le temps de synthétiser toutes ces informations.
D'ingérer toutes ces informations.
Ils sont totalement saturés. Et c'est un phénomène qui ressemble aussi à la saturation automobile dans les villes. C'est-à-dire que l'automobile qui est faite pour augmenter la mobilité produit en fait de la paralysie dans un certain niveau de production automobile, d'occupation de la ville par l'automobile. La saturation affective produit la même chose, mais c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave. Ça détruit les affects. Or, qu'est-ce que c'est qu'un être désaffecté? C'est un être qui devient indifférent au monde qui l'entoure. C'est pourquoi, dans ce livre, je m'intéresse au hikikomori, puisqu'au Japon, ce phénomène a atteint 1 million de jeunes gens, mais au niveau pathologique. C'est-à-dire des jeunes gens qui sont totalement coupés de la société, qui ne vont pas du tout à l'école, qui ne travaillent plus, qui vivent chez leurs parents, mais qui tabassent leurs parents, souvent, et qui ne consomment plus du jeu vidéo, de la télévision, etc. Ou bien des objets de grande consommation. Par exemple, il y a le cas d'une jeune japonaise hikikomori chez qui on a trouvé 300 sacs Chanel stockés dans sa chambre, avec des pratiques complètement délirantes qui sont des pratiques de substitution où évidemment ces jeunes gens cherchent à reconstituer un monde affectif. Donc ils produisent des petites communautés de ce qu'on appelle les otaku, par exemple, et qui cherchent à vivre ensemble autour d'objets de culte parce qu'ils n'ont plus d'objets d'espoir et donc ils essayent de les sécréter. Alors pour revenir au CPE, évidemment, je pense que le CPE, le mouvement qui a été déclenché par le CPE, est clairement une bonne nouvelle. Quand je dis que c'est une bonne nouvelle, je ne m'exprime pas là sur ce que je pense du CPE en tant que tel, est-ce que je suis pour ou contre. Je dirais que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que là, nous voyons une jeunesse qui essaye de ne pas réagir de manière absurde en faisant des passages à l'acte délirants, mais qui essaye de bâtir une pensée politique. Maintenant, ce moment, nous sentons bien qu'en France actuellement, et dans toute l'Europe d'ailleurs, en France peut-être plus sensiblement qu'ailleurs, nous sommes dans un moment décisif, tout à fait crucial, où d'énormes conflits sont en train de se révéler, d'énormes tensions sociales qui sont produites par une société profondément irrationnelle, sachant que pour moi, une société rationnelle, c'est une société qui produit des raisons de vivre. Cette société irrationnelle, cette jeunesse cherche, à travers ces mouvements du CPE, à lui redonner une raison. C'est donc un mouvement très responsable qui cherche, face à des comportements très irrationnels du monde politique, du monde économique, du monde bancaire, 15 cartes de crédit avaient les époux Cartier, 15 cartes de crédit, un comportement totalement absurde de cette société, il y a des jeunes gens qui cherchent, eux, à trouver des voies. Évidemment, ils peuvent se tromper dans leur choix. Évidemment, on peut considérer que leur refus de toute transformation du code du travail, etc., est un blocage absurde. Mais dire cela suppose d'être capable de leur donner des perspectives à long terme que personne ne leur apporte aujourd'hui. Je me penche, moi, dans ce livre, dans ces deux livres, sur cette question, en passant d'une part, en effet, par la figure d'Antigone, qui est une figure extrêmement intéressante, puisque Je rappelle qu'Antigone s'élève contre Créon, qui est un tyran. Créon qui cherche à imposer...
Elle s'élève contre la raison d'État.
Elle s'élève contre une application abusive de la loi et d'une loi qui n'a plus d'esprit. D'une loi qui n'a plus de raison. Et Antigone dit à Créon, tu n'es pas un bon représentant de la loi, parce que la loi doit avoir une autorité. Et l'autorité, c'est pas la police. L'autorité, ce n'est pas la force. L'autorité, c'est d'abord ce qui, dans la loi, me regarde comme ce qui s'impose à moi. Et ça passe par ce qu'elle appelle la fratrie, la filia, l'autorité. Alors, elle dit à Créon, tu ne veux pas enterrer mon frère Polynice, lui donner des obsèques et donc lui permettre d'entrer dans la communauté des morts. Tu ne respectes pas du tout l'esprit de la cité et donc je m'oppose à toi. Antigone m'intéresse parce qu'elle représente ce qu'il y a dans la jeunesse de capacité de transgression. Et cette capacité de transgression, ou bien on en fait une force critique. C'est ça l'idée de la politique. C'est ça qui fait que les sociétés occidentales en particulier ont connu un dynamisme depuis plus de 2000 ans extraordinaire. C'est qu'elles ont su donner à la force critique une capacité de traduction sociale qui n'est pas le terrorisme, qui n'est pas l'assassinat, qui n'est pas la tyrannie, qui n'est pas la dictature, mais qui est une capacité à se transformer dans un jeu entre la loi telle qu'elle est constituée par le droit et la loi telle qu'elle est constituée par ce que j'appelle l'esprit de justice. Ce qui n'est pas la même chose. Le droit, c'est quelque chose de positif, ça existe, il y a des lois, il faut les respecter, mais ça a des limites, ça peut se tromper, on l'a vu avec l'affaire Loutreau. La justice, c'est un état d'esprit, c'est une raison, c'est une idée qui doit être partagée, cultivée et désirée par tout un chacun. Une société qui n'est pas capable de sécréter l'idée qu'elle est porteuse, nonobstant toutes les différentes appréciations qu'on peut avoir sur le droit, du désir de la justice, qui n'est pas capable de cultiver le sentiment que l'on va vers une augmentation de la justice, est une société condamnée à mort. Nous sommes confrontés aujourd'hui à ce problème.
Alors nous sommes confrontés aujourd'hui à ce problème, et vous commencez ce livre, Bernard Stiegler, en disant qu'il y a évidemment un autre concept très important pour jouir dans nos sociétés industrielles de ce qu'on a appelé pendant longtemps le progrès, ou le bien-être, ou le mieux vivre. Vous prenez un exemple très simple et très concret, les transports, les autoroutes. Vous dites que pour profiter d'une autoroute, donc a priori rouler en toute sécurité, aller un peu plus vite qu'une nationale, arriver à bon port, il faut avoir confiance dans l'infrastructure qui porte ma voiture et peut-être que ma voiture me transporte moi et ma petite famille. Or, vous prenez un exemple qu'on a entendu dans les journaux télévisés ou à la radio, c'est les caillassages sur les ponts. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer sous un pont d'autoroute et vous pouvez prendre une pierre en plein dans le pare-brise. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là aussi, vous faites de ce fait divers, parce que c'est un fait divers, un symptôme de la rupture de ce traité de confiance dont je parlais ?
Tout à fait. En fait, j'évoque au début de ce livre une histoire qui m'est arrivée, enfin, deux histoires qui me sont arrivées. J'étais au Maroc dans les années 80, en 87, et Abdelkerir Khatibi, un écrivain marocain, à qui je disais que j'allais me rendre à Essaouira, m'a dit « si tu passes à Casablanca, ne prends pas le périphérique, surtout pas de nuit ». Parce que le périphérique traverse le bidonville et tu recevras un pavé dans ton pare-brise. Et effectivement, c'était une pratique assez courante dans ce pays. Cette autoroute qui traversait ce bidonville ne produisait pour les habitants de ce bidonville que des nuisances, du bruit, des gaz d'échappement et, en quelque sorte, une espèce d'insulte permanente. Parce que ces voitures puissantes qui passaient là à travers le bidonville étaient comme une espèce d'évidence du scandale de la misère dans laquelle vivaient ces gens du bidonville. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Il se passait que les enfants s'en prenaient aux voitures d'une manière totalement irrationnelle, totalement incontrôlable aussi. Pourquoi incontrôlable ? Parce que ces enfants n'ont rien à perdre. À partir du moment où les gens n'ont rien à perdre, on ne peut absolument pas les contrôler. Et c'est en ce sens-là qu'il faut parler de raison et de rationalité sociale.
Et là, vous pensez aux émeutes urbaines en disant ça.
Et je pense aux émeutes urbaines. Il se trouve que ce phénomène s'est reproduit en Italie en 93 à Milan, qu'ensuite il a migré, pardon, pas à Milan, à Naples. Ensuite, il a migré vers le nord d'Italie, il est monté jusqu'à Orange, et on a dit aux médias, ne parlez plus de l'événement, parce que tout le monde se met à en faire autant. Il y a un phénomène mimétique. La souffrance, à partir du moment où elle existe, elle est accumulée chez les gens. Et à partir du moment où tout à coup, cette souffrance voit que Certains l'expriment en faisant un passage à l'acte. Eh bien, tout le monde a envie de commettre ce même passage à l'acte. C'est ce qui s'est passé avec les émeutes de novembre. Il est évident que c'est clair qu'il y a eu une traînée de poudre qui s'est déclenchée comme ça. Et il faut souligner ici, ça a été évoqué en particulier par une émission de France Culture un samedi matin d'Elisabeth Lévy, que les chaînes de télévision ont cultivé ce processus mimétique d'une manière absolument problématique. Plusieurs chaînes de télévision se rendaient sur place, attendaient les événements et les provoquaient d'une certaine manière en les attendant. Achetaient d'ailleurs des séquences tournées en vidéo sur les téléphones portables par les émeutiers, etc., etc. Il y a un processus là qui est un processus extrêmement inquiétant et qui produit ce que j'appelle de l'hyper-impuissance. Nous vivons dans une société extrêmement technologisée. Une société comme celle-ci, qu'on appelle une société de la puissance du rationnel, c'est Dominique Janicot, un philosophe qui l'avait appelé comme ça, est une société qui produit énormément de vulnérabilité. C'est-à-dire que la puissance est très très grande, mais il suffit en effet, par exemple, de jeter des semences de tapissier sur une autoroute où des gens roulent à 130 km/h pour faire 10 morts. C'est une société extrêmement vulnérable. Il suffit de mettre du cyanure dans les réserves d'eau de New York pour massacrer des tas de gens. Woody Allen voulait faire un film là-dessus, on lui a demandé de ne pas le faire. Cette société suppose par ailleurs pour fonctionner que ceux qui en jouissent aient confiance dans le système. À partir du moment où nous voyons des gens qui n'ont plus de raison d'espérer, n'avoir aucun intérêt à ce que le système fonctionne, et donc s'insurger contre le système et le bloquer, ce processus risque de se multiplier, et évidemment le terrorisme mise là-dessus. On sait très bien que le terrorisme a déjà coûté à l'économie mondiale des milliards et des milliards de dollars par la perte de confiance. Et ça n'est malheureusement qu'un début.
Par la perte de confiance, on pourrait vous objecter que le terrorisme dont on parle le plus, encore visiblement hier en Égypte, est un terrorisme de nature religieuse. Donc là, de toute façon, lui, il est plutôt en rupture qu'en perte de confiance. Quel lien vous faites entre la perte de confiance dont vous parlez, ou le populisme industriel, du marketing et des médias, et le terrorisme ?
Alors, c'est compliqué cette question du déterrorisme, il faudrait parler déterrorisme, mais il me semble clair. Je suis intéressé aux terroristes de Londres, parce que, d'une part, ils sont européens, et d'autre part, ils étaient anglais, de nationalité anglaise, à la différence de ceux qui sont intervenus, par exemple, à Madrid. Je crois que il y a aujourd'hui la possibilité pour la jeunesse de tendre, d'aller vers des formes d'intégration à ces terrorismes religieux, dans la mesure où, à partir du moment où il n'y a plus de raison d'espérer, produite par la société dans laquelle on vit, eh bien, des démagogues, des mystagogues, on peut les appeler, exploitent cela et tentent de capter ce désespoir pour lui donner, si je puis dire, des raisons de désespérer. Le désespoir a besoin, tout homme a besoin de raison. Tout être rationnel a besoin de raison, y compris de très mauvaises raisons. Les raisons de désespérer peuvent s'appeler l'intégrisme religieux, elles peuvent s'appeler le nationalisme dans ses formes les pires, elles peuvent s'appeler l'extrême droite, ou certaines formes de l'extrême gauche, du terrorisme d'extrême gauche. Il y a aussi un terrorisme politique d'extrême gauche qui n'est pas du tout religieux, mais qui, dans tous les cas, fait que on arrive à un processus que j'appelle la sublimation négative. Quand les individus ne parviennent plus à produire de la sublimation positive, c'est-à-dire à transformer leur désir en un objet social positif, qui, c'est le cas typiquement d'Antigone, qui, on l'a toujours dit, est un personnage sublime de la tragédie, et dans son caractère sublime, qui présente une image de la cité et du sacrifice, elle se sacrifie pour une certaine idée qu'elle a de la cité. Alors, on voit apparaître des formes de sublimation négative, c'est-à-dire des pratiques sacrificielles qui sont en réalité des pratiques suicidaires, mais où ceux qui sont suicidaires, tout comme ceux des Twin Towers, parce que l'événement fondamental de Londres, c'est que c'était des gens qu'on a appelés des kamikazes. Moi, je dis que ce ne sont pas des kamikazes, ce sont des gens qui se prenaient pour des martyrs, parce qu'ils cherchent à transformer leur désespérance suicidaire en un geste social, que eux croient social. On peut considérer, c'est mon cas, que c'est un geste horrifique, que c'est un geste antisocial de manière absolue. Mais eux ne le vivent pas du tout comme ça. C'est une certitude. Y compris ce monsieur français d'origine qui est jugé actuellement pour les attentats de New York, est clairement dans son délire absurde, dans cette hallucination sacrificielle. La société dans laquelle nous vivons produit des comportements de ce type-là. Si nous ne répondons pas à cette désespérance, inévitablement nous verrons ces phénomènes se multiplier. C'est ce que j'appelle les desperados qui nous attendent s'il ne se passe rien, si nous ne changeons pas de modèle industriel en particulier.
Et dans le volume 3, Bernard Stiegler de Mécréance et Lisredi vous dit, voilà, si nous ne changeons pas de modèle industriel, donc ce volume 3 s'appelle L'esprit perdu du capitalisme, vous faites une liaison intéressante qui va pas forcément de soi, parce que vous dites, finalement, ce cynisme industriel dont nous sommes les victimes, ce populisme industriel dont nous sommes les victimes, vous avez évidemment au bout de votre fusil, mais vous en êtes expliqué dans d'autres livres précédents, Patrick Lelay, le patron de TF1, qui expliquait que le boulot de TF1, c'était de rendre disponible le temps du cerveau humain du téléspectateur pour vendre ce temps de cerveau disponible aux annonceurs publicitaires. Mais vous faites un lien entre 68, entre la révolution des mœurs, des mentalités de 68 et l'état du capitalisme actuel contemporain. Quel est ce lien ?
Alors ce lien, il avait été pensé dès 1955 par Herbert Marcuse, dans un livre très important, qui à mon avis repose sur des hypothèses erronées d'ailleurs, qui s'appelle Eros et civilisation, dans lequel Marcuse disait... Les problèmes qui se présentent comme de la psychopathologie sont en fait des problèmes de sociopathologie. C'est-à-dire ce qu'on présente comme des dysfonctionnements psychiques individuels, sont en vérité des processus qui sont liés à des pathologies sociales, à un dysfonctionnement social. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et dans ce livre, Marcuse disait, il faut réarticuler la question du désir au sens où Freud l'a posé avec la question de la société industrielle, du capitalisme industriel. Alors, moi, je me penche sur ce sujet dans la mesure où Marcuse, qui a été un des grands inspirateurs de 68, des mouvements de 68 aux États-Unis et en France en particulier, a développé l'idée qu'il fallait passer à une société de ce qu'il appelait la libération des instincts. Et c'est une des sources, c'est pas la seule, il y en a eu beaucoup d'autres, Isidore Isou, Guy Debord, etc. Mais c'est une des sources qui a inspiré 1968 dans la nécessité de libérer la libido, et en particulier de s'opposer au surmoi. Au surmoi, c'est-à-dire à la régulation des modes de vie par la loi, par les mœurs, par toutes sortes de dispositifs qui sont sécrétés par toutes les sociétés. Or, Marcuse notait dès 1955 que le véritable adversaire du surmoi, c'était le capitalisme lui-même. Parce que Marcuse avait compris que le capitalisme était embarrassé par le surmoi en tant qu'il met des limites à la consommation. Et que donc le capitalisme allait s'attaquer à la destruction du surmoi et allait lui substituer ce qu'il appelle un surmoi automatique, c'est-à-dire un faux surmoi, un surmoi purement mimétique qui reposait précisément sur la télévision. C'est en 1955, la télévision n'existait pratiquement pas encore à cette époque-là. Donc Marcuse était extrêmement lucide. Le problème, c'est que Marcuse a commis une erreur, à savoir que il n'a pas vu que lui-même opposait le surmoi au désir et en particulier parlait d'une libération des instincts de ce qu'on appelle le trib en allemand, c'est-à-dire ce qu'on traduit en français plus généralement par la pulsion, et que finalement il a préconisé une révolution de la libération des pulsions, etc., de la libido, en opposant surmoi et libido, et en opposant aussi technique et libido. Alors ça, je me suis intéressé de près parce que je pense que c'est un des grands problèmes du mouvement de 68 en France. Et que aujourd'hui, on parlait du mouvement de la jeunesse et du CPE, des questions de soulèvement de la jeunesse reviennent. On sent bien que la jeunesse est au bord du soulèvement. Et c'est pas seulement en France, hein, dans beaucoup d'autres pays, il y a des mouvements qui manifestent cette tendance. Mais que il est temps aujourd'hui de revenir sur ces questions qui ont été posées en 68 et qui ont été mal posées dans la mesure où, en effet, je me penche aussi sur le livre de Boltanski et Ciapello qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». On a dit dans ce livre, Boltanski et Ciapello ont dit, finalement 68 a permis d'ouvrir la voie à la libération du surmoi pour que le capitalisme puisse développer la consommation sans aucune limite. Et je crois que c'est une erreur. Je pense que le capitalisme avait commencé cela, je l'ai analysé dans d'autres livres, dès le début du, même dès la fin du 19e siècle, mais que 68 a permis de rationaliser ce processus. Mmh. J'essaye de revenir dans cet ouvrage sur cette histoire, parce que je pense que ces problèmes du rapport entre surmoi, désir, technique, libido et industrie sont à reposer à nouveau frais dans une nouvelle organisation industrielle, et qu'en effet, le projet marcusien était très intéressant, qui nécessite d'être critiqué de manière très sérieuse, très approfondie, mais face à ce que nous ont enseigné les 30 ans qui se sont écoulés depuis 68, 35 ans même.
Merci beaucoup Bernard Stiegler. Donc les deux nouveaux volumes de Mécréance et discrédit, tous les deux chez Galilée. Le premier s'intitule Les sociétés incontrôlables d'individus désaffectés et le second L'esprit perdu du capitalisme. Tout de suite Philippe Collin.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Sorry, buddy.
Sorry, buddy.
Sorry, buddy.
Philippe Collin, l'homme qui a vu l'ours, bonsoir.
Bonsoir. Amis du troupeau de Panurge, des côtes d'agneau grillées au barbecue et de la chèvre de Monsieur Seguin, bonsoir. Ce soir, l'expression populaire qui nous concerne nous arrive tout droit de la culture littéraire du 15e siècle. Cette semaine, j'ai donc choisi pour vous revenir à ces moutons. Cette expression « revenir à ses moutons » trouve son origine dans la célèbre pièce « La farce de Maître Patelin » écrite en 1464 par un auteur inconnu. Elle met en scène trois personnages, un avocat véreux, Maître Patelin, un honnête marchand, Guillaume, et un berger plus que malin, Thibaut. Toute l'histoire est une affaire d'escroquerie. L'avocat véreux arnaque le marchand en lui soutirant une étoffe précieuse. Et de son côté, le berger lui vole les brebis du troupeau de ce pauvre Guillaume qui décide alors de porter les deux préjudices devant la justice. Mais face au juge, le pauvre Guillaume ne sait plus où il en est et il s'embrouille tellement qu'il mélange les deux affaires. Tantôt il parle d'une étoffe, tantôt il parle de brebis, si bien que le juge n'y comprend plus rien et ordonne dans un premier temps au pauvre marchand de revenir à ses moutons. Et voilà, la farce de Maître Patelin connut d'un tel succès que la réplique du juge entra dans le langage populaire. Et encore une fois, comme bien souvent, l'expression « revenir à ses moutons » a survécu à l'usure du temps et s'emploie toujours aujourd'hui pour demander à quelqu'un de reprendre un discours ou une conversation interrompue, autrement dit revenir à son sujet. Eh bien, hier après-midi, c'est ce que je me suis dit, il faut que je revienne à mes moutons. Oui, ici même, il y a 15 jours, j'ai soulevé le sulfureux problème que posent les gros nounours dans les Pyrénées. Et depuis deux semaines, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité des ours dans les Pyrénées s'est follement emballée. Donc, il me semblait opportun d'y revenir dès ce soir. Alors, que s'est-il passé? Tout d'abord, ça y est, dans les montagnes slovènes, la chasse aux ours a débuté il y a 10 jours. En effet, pour réintroduire quelques plantigrades dans le département de l'Ariège et de la Haute-Garonne, il est nécessaire de capturer quelques gros nounours slaves pour les relâcher ensuite dans la nature française. Et à ce propos, nous avons eu quelques précisions indispensables sur la méthode pour savoir comment capturer un ours. Alors écoute bien, car si toi aussi un jour tu veux coincer Winnie l'ourson, ça peut être utile, c'est assez simple. Les pièges sont déposés dans la forêt et sont constitués d'un lacet solidement fixé à un arbre. Dès que le piège se referme sur la patte d'un gros ours, une alerte sonore avertit les techniciens qui doivent sortir précipitamment de leur cabane en bois pour aller planter dans le cul de l'ours furieux une seringue anesthésiante. Bonjour l'angoisse, là je dis passe d'abord. Une fois le fauve endormi, il sera alors chargé dans une fourgonnette direction les Pyrénées. Et je n'ose imaginer l'humeur du gros ours en descendant de l'estafette. Si je t'attrape, je te bouffe. Mais bon, nous verrons bien, toutes ces opérations doivent se dérouler durant les quelques semaines qui nous séparent maintenant de l'été. Cela dit, le véritable rebondissement de cette histoire d'ours ne se situe pas en Slovénie, mais bel et bien chez nous, dans les Pyrénées. Et oui, voilà quelques jours que Boupsy, nounours brun de 9 ans et qui pèse 200 kilos, est réapparu dans les montagnes de l'Ariège. Après plusieurs mois d'hibernation, Boupsy lui aussi est revenu à ses moutons, puisqu'il en a déjà bouffé 5, et qu'il est également accusé d'avoir explosé 7 ruches pour se goinfrer de miel. Du coup, c'est à nouveau la guerre dans l'Ariège entre les pro-ours et les autres. Mais alors, qui est Boupsy? Ce gros nounours est né en 1997 et malheureusement orphelin dès l'âge de 7 mois, puisqu'il est le fils de Melba, l'oursonne tué accidentellement par un chasseur, accident qui avait profondément ému président Chirac. À l'époque, on s'était inquiété de savoir si cet ourson pourrait survivre sans sa mère. Aujourd'hui, on a la réponse. Bouxy a une devise. Si je t'attrape, je te bouffe. Si t'es pas content, c'est pareil. Pour certains psychologues des ours, si, si, ça existe. Le véritable problème pour Bouxy, c'est qu'il n'a pas reçu d'éducation maternelle. Et oui, Melba n'a pas eu le temps de lui enseigner la peur des hommes. Du coup, depuis quelques jours, le gros ours s'approche dangereusement des habitations et rôde au fond des jardins le soir à la recherche d'une petite friandise. C'est donc la panique dans les villages de l'Ariège. Alors, face à cette intrusion intempestive du grizzly dans les géraniums de Mémé, les autorités locales de la préfecture ont décidé de mettre en place, à partir de demain, mercredi, ce qu'ils appellent des opérations d'effarouchement. Autrement dit, comment faire peur à Bouxy. Le choix retenu pour l'instant, c'est de tirer au flashball sur le gros ours. En résumé, c'est une approche de but. Du coup, je ne suis pas certain qu'on aille vers une pacification des rapports entre les villageois et les gros nounours. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir une suite à toutes ces histoires d'ours et qu'il faudra sans doute, dans quelques semaines, revenir à nouveau à nos moutons. La suite donc, au prochain épisode.
Voilà. Merci beaucoup, Philippe Collin. J'ai juste oublié de vous dire que tous les livres de Bernard Stiegler sont publiés aux éditions Galilée, sauf un, le dernier, qui est une petite conférence sur l'homme et son désir de grandir. Il s'intitule « Des pieds et des mains ». C'est publié chez Bayard. Ça vaut moins de 10 euros. Et si vous trouvez, parfois à juste titre, que Bernard Stiegler est un philosophe pas facile à comprendre, eh bien là, cette petite conférence est destinée aux enfants. Donc normalement, tout le monde devrait comprendre. Philippe Collin est en pleine crise nerveuse. Rien qu'à l'idée de penser de bois à Bouxy. À demain, ciao.
Cet été, partez là où le soleil passe des nuits blanches, en Finlande. La journée, visitez les îles en bateau, faites du rafting, de la pêche ou découvrez les 200 000 lacs du pays. En soirée, assistez à un concert en plein air, profitez de l'accueil finlandais autour d'un verre et finissez la journée par un bain de nuit en plein jour. Les vacances d'été sous le soleil de Finlande, c'est vraiment le jour et la nuit. Une semaine en Finlande à partir de 651 euros TTC. Plus de renseignements sur vacancesfinlande.com, vacancesfinlande.com.
La Cité Rouge de Gennevilliers sera bientôt détruite. Avec Christiane Benbarek et Anne Coudin, des habitants ont créé un atelier d'écriture pour que 30 ans de mémoire ne disparaissent pas. De samedi en samedi, ils sont venus écrire et partager leurs souvenirs. Cité Rouge est un merveilleux livre où Kamel, Roberto, Soumarou, Selim...